Et nous allons passer cette nouvelle semaine de découverte destination dans les coulisses de la marbrerie de l'univers des pompes funèbres avec notre invité Thierry Jouandou qui est depuis 20 ans à la tête de l'entreprise SA Marbrerie Jouandou ici à Limoges. Avec vous, on va d'abord peut-être commencer tout simplement par dresser l'historique de cette entreprise. C'est une véritable histoire familiale.
Effectivement, l'entreprise date de 1804 et elle est dans la famille depuis 1890. Mon arrière-grand-père, Léon Jouandou, dont le portrait se trouve dans le magasin d'ailleurs, a été le fondateur un peu de la dynastie Jouandou, puisque je suis la quatrième génération depuis cette date.
Pourquoi votre famille s'est lancée dans cet univers-là ?
Eh bien, à l'origine, il était simplement tailleur de pierre. C'était une entreprise de marbrerie qui existait auparavant sous le nom de la marbrerie Fort Aîné. Et il voulait se lancer dans une entreprise et il a récupéré donc une entreprise existante.
Pour vous, ça a été une évidence évidemment de reprendre le flambeau ?
Oui, il se trouve que dans la famille, j'étais un petit peu le seul à avoir fait des études un petit peu techniques qui étaient nécessaires pour reprendre une marbrerie, puisque ça reste quand même de la construction. Et donc, oui, je n'ai pas hésité.
Il y a quoi ? 4 grandes activités au sein de l'entreprise ?
Oui, les choses du funéraire, l'activité funéraire a quand même un peu évolué et on se doit aujourd'hui de présenter une offre un petit peu globale. Ça commence par l'endroit où nous sommes, là, le magasin où sont vendus des articles funéraires, des plaques, des bronzes, des fleurs. Ensuite, la deuxième grande activité, évidemment, c'est l'organisation des obsèques qui se traduit donc par le nom de pompe funèbre. La troisième activité dont on reparlera sans doute, c'est la maison funéraire qui est un service de plus en plus demandé. Donc, pour accueillir les défunts et de façon à ce que les familles puissent les visiter en toute liberté. Et la quatrième activité, bien entendu, eh bien, c'est l'activité d'origine de l'entreprise, c'est la marbrerie funéraire, tout ce qui est entretien, construction de sépultures dans différents cimetières de Limoges et de la région.
Sur ce marché funéraire, ne serait-ce qu'en 20 ans que vous êtes à la tête de l'entreprise, vous avez vraiment vu les choses évoluer, il a fallu vraiment s'adapter.
Oui, les pompes funèbres et la marbrerie étaient deux métiers organisés en général avec des entreprises différentes. Il s'avère que ces activités sont complémentaires et que si à l'origine de l'entreprise nous ne faisions que la marbrerie, il a fallu s'adapter pour proposer une offre plus globale et donc faire pompe funèbre et maison funéraire.
Avec la volonté quand même, et on le disait en démarrant cette émission, de garder vraiment cette empreinte familiale, une véritable tradition au sein de l'entreprise.
Oui, il est un fait que l'évolution des choses là aussi fait que les enseignes ont de plus en plus de succès auprès du public. C'est pour ça que nous avons choisi de prendre l'enseigne Roque et Clair, mais c'est pas parce que nous avons une enseigne Roque et Clair que nous abandonnons les valeurs qui ont été transmises par l'arrière-grand-père, le grand-père et le papa. Donc nous restons une entreprise familiale avec une enseigne qui apporte un certain nombre d'avantages et pour l'entreprise et pour le public, mais on reste avec les valeurs et la tradition familiale.
Notre deuxième rendez-vous dans ce destination consacrée à l'univers des pompes funèbres de la marbrerie avec notre invité Thierry Jouandou, on rappelle, au sein de la société SA Marbrerie Jouandou à Limoges. Là, on a changé d'espace, on était dans le magasin d'accueil de notre premier rendez-vous. Là, on est passé dans la salle d'exposition. Ça permet au public de découvrir un petit peu le panel des produits que vous proposez.
Oui, donc nous avons aménagé une salle d'exposition des cercueils où nous avons bien distingué les cercueils en bois dur, c'est-à-dire essentiellement le chêne, mais ça peut être aussi le frêne, l'acajou, voire le châtaignier, justement, qui est un petit peu une spécialité de la Haute-Vienne, et les cercueils qui sont en bois tendre, donc essentiellement en pin. Ils peuvent être aussi en peuplier. Là, nous avons 3 modèles en pin parce que c'est obligatoire pour l'incinération de ne pas avoir de bois dur. La crémation se développant, c'est incontestable puisque au niveau français, on est quasiment à un obsèque sur 3 qui est une crémation. Un petit peu moins en Limousin parce que le développement n'est plus terrien, donc le développement de la crémation est un peu plus faible, mais on est quand même au-delà de 25% des crémations. Donc ça veut dire que, eh bien, les fabricants d'urnes ont fait part de beaucoup d'imagination pour répondre à un besoin croissant donc de la clientèle. Donc on distingue un petit peu les urnes qui peuvent rester à l'extérieur, en granit par exemple, des urnes qui peuvent être mises dans un caveau ou dans un caveurne, qui sont en métal, en aluminium, voire en bois dur.
Les capitons, donc pour les cercueils cette fois, là aussi, il y a vraiment un large choix.
Effectivement, les capitons, on offre une gamme de 8 capitons au choix. Parmi ces 8 capitons, je précise quand même qu'il y en a 2 qui sont donnés un petit peu plus écologiques parce qu'ils sont entièrement en fibre naturelle. J'en profite aussi pour dire que nos cercueils, on a la garantie que les bois sont issus de forêts à gestion durable, de forêts qui se trouvent exclusivement en Creuse, en Dordogne et dans le sud de la Haute-Vienne. Donc pour tout ce qui est chêne, châtaignier et frêne. Par ailleurs, nous avons la garantie que les colles sont sans solvant et que les vernis sont à l'eau. Bon, tout ça pour dire que même les préoccupations un petit peu écologiques viennent aussi dans les produits du funéraire.
Il y a des règles, que ce soit en matière de crémation ou d'inhumation. On rappelle quelques-unes des règles de base et puis de tout ce qui a changé ces derniers temps.
Oui, les règles du funéraire, c'est un livre de 500 pages. Il y a des prestations légales obligatoire et notamment le cercueil, le fourgon mortuaire et avec les porteurs. Et la destination du cercueil est forcément dans un cimetière, dans un caveau ou en pleine terre. La législation autorise ces deux modes d'inhumation.
Et donc la crémation, là aussi, il y a des règles et qui ont évolué d'ailleurs.
Le législateur a voulu que les cendres prennent le statut de reste mortel, donc ce qui date depuis le 19 décembre 2008. Et donc la destination des cendres est soumise aux mêmes règles d'autorisation, de contrôle que pour un cercueil. La destination a été restreinte, c'est-à-dire que les familles n'ont plus du tout le droit de conserver les urnes chez elles. Il n'y a pas d'effet rétroactif, c'est-à-dire que les urnes que les familles ont déjà chez elles avant cette loi, eh bien, elles peuvent le garder. Mais par contre, depuis début 2009, il est interdit aux familles de conserver les urnes chez elles. Alors, il reste 4 cas de destination des cendres qui sont autorisés par cette loi. Dans le caveau de famille, ce qui est recommandé lorsque le caveau existe. Dans un crématorium communal, lorsqu'il existe, bon, je rappelle que les communes de plus de 2000 habitants doivent être équipés d'un columbarium. La dispersion dans un endroit aménagé par la commune dans l'enceinte du cimetière, qui s'appelle souvent Jardin du Souvenir. La dispersion en pleine nature, c'est encore possible, mais elle est soumise à des autorisations et des déclarations assez contraignantes. On ne donnera pas l'urne à la famille si elle n'a pas déclaré le jour, l'heure et le lieu où cette dispersion allait être faite. Le maire de la commune doit être prévenu. Et également, il faut faire une déclaration à la mairie de naissance du défunt. Cette dispersion ne doit pas avoir lieu sur la voie publique et ne doit pas avoir lieu à moins de 35 mètres de n'importe quelle habitation. Donc c'est toujours possible, mais il y a des contraintes.
Notre troisième rendez-vous ici dans cet univers de la marbrerie et des pompes funèbres. Je rappelle que nous sommes en compagnie de Thierry Jouandou de l'ASA Marbrerie Jouandou à Limoges. Nous sommes là au cœur de l'atelier, donc on est toujours dans l'univers funéraire, l'atelier de montage des cercueils. On a expliqué que les cercueils vous les receviez donc de la Dordogne et ensuite donc il y a une petite action de montage.
Voilà, effectivement, on reçoit le bois des cercueils mais qui est vide, donc il faut équiper. Donc on a un petit atelier où on monte l'étanchéité intérieure du cercueil, où on monte le capiton qui est un tissu ouaté dans lequel va reposer le défunt, et on grave une plaque d'identité sur le couvercle du cercueil avec la pose d'un emblème qui peut être une croix, une rose ou un flambeau en fonction du souhait des familles ou rien du tout d'ailleurs. Bon, il y a eu des évolutions parce que pour la plaque d'identité, ben maintenant on a des outils informatiques qui nous permettent de graver quelque chose de plus joli sur la plaque qui est posée sur le cercueil, mais sinon à part ça le reste complètement traditionnel. Bon, comme beaucoup de gens le disent, la mort fait partie de la vie, tout au moins c'est la fin de la vie, donc la mort arrive de façon impromptue et c'est à l'entreprise de s'adapter. La charge de travail est complètement irrégulière, ça fait partie des difficultés du métier, mais ça fait partie de notre métier.
Lorsque l'on fait appel à vous, le décès est survenu, on passe un coup de fil ici. Quel est un petit peu le cheminement de vos différentes activités?
Il faut faut savoir quand même qu'on ne peut strictement rien faire tant que le médecin n'est pas passé voir le défunt et signé un certificat de décès. Donc c'est la pièce maîtresse qui va nous permettre de déclencher après toutes les opérations. Nous, nous soignons particulièrement l'accueil et l'accompagnement des familles, parce que le décès est parfois attendu, mais d'autres fois pas du tout. Donc on se trouve face à des familles qui sont effondrées. Donc on essaye de les recevoir avec le plus d'humanité possible. Donc bien évidemment, on discute avec elles de la façon dont ils voudraient que les obsèques soient organisées, si il s'agit d'une crémation, d'une inhumation, une cérémonie religieuse ou si ça sera des obsèques civiles, si ils souhaitent que dans un premier temps le corps repose en maison funéraire ou au domicile. Enfin bref, il s'instaure une discussion et bien évidemment on établit un devis de façon à ce que la famille connaisse auparavant le coût de la prestation.
Ça veut dire que il faut en parler, il faut préparer les choses et peut-être aller même jusqu'au contrat d'obsèques.
Vous avez raison et effectivement on constate que ce qui est plus communément appelé le contrat obsèque, qui est en fait organiser ses obsèques à l'avance de son vivant, est quelque chose qui est le plus demandé. Pourquoi ? Parce que les parents ou grands-parents souhaitent d'une part débarrasser leurs enfants ou petits-enfants de l'organisation de leurs obsèques et de les soulager des frais financiers que ça peut leur occasionner. D'autant plus qu'il assure aux défunts que ses volontés seront bien respectées. Et le financement est assuré par une compagnie d'assurance, donc c'est pas l'entreprise qui touche l'argent, elle ne le touche que le jour venu sur la base d'un certificat d'essai et d'une facture.
On évite les mauvaises surprises et on vit son deuil plus sereinement.
Absolument, oui, et on s'aperçoit bien que lorsqu'il y a un décès d'une personne qui avait souscrit un contrat obsèque, eh bien les enfants sont assez soulagés et finalement on n'a qu'à décider les heures, les horaires, contacter le prêtre, tout est déjà défini.
Notre quatrième halte au sein de la société SA Marbrerie Jouandou, nous sommes toujours avec son PDG Thierry Jouandou à la tête de l'entreprise depuis 20 ans, mais on rappelle, entreprise familiale depuis deux siècles maintenant. On est ici dans le hall d'accueil du funérarium de la maison funéraire.
En fait, c'est toujours stressant de rendre un dernier hommage à un défunt qu'on a connu, un proche. Donc on a voulu un hall d'accueil, déjà de ne pas rentrer directement en contact avec le défunt, un hall d'accueil assez grand avec un bruit d'eau, donc c'est d'où cette fontaine qui apaise un petit peu.
Il y a en tout cas quatre salons, on parlait du côté familial, ancré dans les terres limousines, vous les avez d'ailleurs baptisés bien de chez nous.
Oui, avec Pompadour, Vassivière, les Monédières. On a souhaité effectivement que ce soit des noms de la région et dans chaque salon, il y a une photo de campagne correspondant à ces lieux.
Alors on pousse la porte et on va évoquer ce qui se passe juste à la suite.
On donne un code à la famille qui est changé à chaque défunt, donc c'est géré sur informatique. Donc la famille a accès en libre service, mais aussi les proches et les amis.
Donc là, effectivement, on passe dans un univers plus cosy, plus apaisé, là encore, mais effectivement, pas encore avec l'accès au corps.
Voilà, donc on rentre dans la partie un petit peu salon. Il y a un fond musical qui est réglable par la famille ou qui peut le couper aussi, avec quelques fleurs au mur. Le tableau de la campagne correspondant au nom qui a été donné au salon. Et c'est un premier sas avant de voir le défunt qui est juste derrière la cloison. Mais certaines personnes rentrent dans le salon, elles savent que le défunt est derrière la cloison, mais ne vont pas le voir justement pour conserver son image bien vivant. Il faut dire que les soins de thanatopraxie qui sont prodigués sur le défunt lui redonnent un visage qu'il avait lorsqu'il était en pleine forme. Et c'est très important pour la sérénité et le souvenir que vont en garder les familles. Et par ailleurs, qui permet, pendant les deux ou trois jours qui séparent l'inhumation, de ne pas constater une dégradation du corps, il reste tel qu'il était.
Alors on va passer juste à côté, donc dans la fameuse partie réservée à l'exposition du corps.
Ce qu'on a voulu, c'est que de proposer aux familles que le corps repose dans un lit comme il dormait. C'est-à-dire que nous proposons de faire la mise en bière, c'est-à-dire la mise du corps dans le cercueil qui reste ouvert, un petit peu au dernier moment, dans la demi-heure qui précède la levée de corps pour partir à la cérémonie. Parce que là encore, c'est un peu plus apaisant. Avec les soins de Thanatopraxie dont on parlait, le lit... On a presque l'impression qu'il est endormi, mais qu'il est toujours là.
Et donc, une fois ces 2-3 jours passés, on va donc véritablement aborder le moment de la cérémonie.
Donc, c'est la levée de corps. C'est un moment qui est difficile, la levée de corps, parce que c'est le moment où on ferme le cercueil. Donc, c'est un moment un petit peu délicat, où on essaye de faire ça avec beaucoup d'humanité, de discrétion. On prévient un petit peu avant, on explique toujours. De toute façon, l'accompagnement, c'est qu'on explique ce qu'on va faire, sans être trop prenant, bien sûr, mais pour que la famille sache quelle va être l'étape suivante. Et puis après, eh bien, la famille se regroupe en convoi et on se dirige vers l'église ou vers le cimetière ou vers le crématorium lorsqu'il s'agit d'une crémation. Il faut être présent, mais tout en étant discret. On est là, ils savent qu'on est là et respecter leur deuil.
Dernier rendez-vous avec Thierry Jouandou dans l'univers de la marbrerie, des pompes funèbres. Et on va parler marbrerie justement pour ce dernier rendez-vous. Particularité de notre région, on travaille vraiment au cas par cas.
Effectivement, la particularité de notre région peut être liée à l'historique, le fait que nous soyons encore une fois une tradition de maçons, de tailleurs de pierre et qu'on vienne de la terre. On construisait des grands caveaux de famille et chaque commune a sa propre dimension. Donc ça veut dire qu'il est impossible pour nous de proposer des monuments standards, ce qui donne un petit peu plus de charme au métier puisqu'on n'est pas uniquement des commerçants, mais il faut aller sur place à chaque fois.
Il y a un peu de granit du Limousin quand même.
Pour un choix aussi plus éthique, on privilégie les granits français, donc ils viennent principalement des gros bassins granitiers français, les bassins du Tarn et les bassins de Bretagne. Il y a d'autres bassins en France. Et notamment, il y a un petit bassin en Limousin, donc où il reste contre vents et marées quelques carrières qui extraient encore des blocs pour la roche ornementale, principalement en Creuse et en Corrèze. Et là, nous les travaillons nous-mêmes. Après, on fait des travaux sur place, de démolition d'un monument en ciment en mauvais état s'il s'agit d'une transformation, où on fait le caveau en béton quand il s'agit d'un monument neuf. Donc, il est monté sur place. Et on établit toutes les finitions, c'est-à-dire toutes les décorations qui peuvent être faites sur le monument, des noms de famille gravés, dorés à la feuille d'or. Et là, nous nous trouvons justement dans l'atelier de gravure où sont dessinés, creusés et puis dorés à la feuille d'or les inscriptions.
On fait plus ça à la main comme dans l'ancien temps, les techniques ont évolué.
Ceci étant, on est toujours en mesure de faire une gravure à la main, mais ça devient de plus en plus rare parce que suivant la taille des lettres, on fait que quelques lettres à l'heure, alors que maintenant il y a une technique qui est déjà utilisée depuis un petit moment, qui est le jet de sable. Le rendu n'est pas aussi beau qu'à la main, mais il est évidemment 10 fois moins coûteux. Et une fois encore, l'informatique s'étant introduite dans tous les métiers, bien évidemment, nous faisons une mise en page maintenant à l'écran avec un découpage de dessins sur une table traçante et qui nous sert de guide donc pour faire la gravure sur le support qui peut être une plaque ou une stèle ou une tombale.
Et puis il y a quand même la partie humaine puisque en revanche la pose de la feuille d'or sur les lettres, ça voilà. Se fait vraiment à la main.
Eh ben c'est tout l'art du doreur. D'abord, c'est du vrai or, parce qu'on nous pose souvent de la question. C'est de l'or battu, qui est du 22 carats. Donc la feuille, effectivement, est très mince. Elle fait quelques microns d'épaisseur. Donc on y applique une mixtion qui va servir de colle. Et après, avec un blaireau plat, on fait glisser la feuille pour fixer l'or sur cette partie.
Vous êtes, vous, installé à 2 pas du cimetière de Louya, hein, qui fait partie quand même des cimetières emblématiques.
Oui, il y a des tombes qui ont maintenant... plus de 200 ans, qui sont dans ces cimetières. Il y avait vraiment des ouvrages d'art de tradition.
Pour terminer, justement, pour quelqu'un qui travaille au quotidien dans l'univers funéraire, on a un rapport différent à la mort, on appréhende les choses différemment.
On reste des humains. Et bien que l'on côtoie la mort tous les jours, parce que c'est notre métier, lorsque l'on a à s'occuper d'un décès accidentel, de jeunes. On ne peut pas humainement y rester insensible. Donc on essaye de garder la réserve nécessaire vis-à-vis des familles, mais il y a des obsèques effectivement qui pour nous sont plus dures que d'autres parce qu'on reste des humains et qu'on ne peut pas rester insensible. On constate quand même que le tabou sur la mort commence un petit peu à tomber. Par exemple, le fait qu'il y ait plus en plus de personnes qui se préoccupent de leur mort, de leur vivant. Et on discute de la mort comme on discuterait d'autres choses. Et ça, on le constate, ce qui n'existait peut-être pas il y a encore quelques dizaines d'années.